On va ensemble ouvrir la Bible. On va continuer ce matin notre série que nous avons commencée sur la délivrance, la liberté. Nous avons vu déjà certains points importants. Nous avons parlé de la croix, sans laquelle notre liberté ne pourrait pas se faire. Nous avons parlé de Jésus, qui est monté sur la croix, qui nous a franchis, de sa parole, qui nous a franchis. On va relire un verset qu'on a déjà lu en introduction ce matin, dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 6, 1 Corinthiens, chapitre 6, et nous lirons le verset 12, 1 Corinthiens, chapitre 6, le verset 12. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Amen. L'apôtre Paul dit, tout m'est permis. Et quand tout nous est permis, c'est que vraiment nous sommes libres. On peut faire ce que l'on veut. Si vous donnez aux enfants la permission de faire quelque chose, ils vont pas se priver pour la faire. Hein. Comprenez bien. Hein. Si on leur interdit, bon, ils vont peut-être hésiter à faire la chose. Mais si on leur permet de faire une chose, ben là, ils y vont. Donc là, tout nous est permis. Il y a quand même un mais de la part de l'apôtre Paul. Deux mais, il y en a même un troisième dans un autre verset, mais il dira ici, tout n'est pas utile. C'est vrai qu'il y a des choses, nous sommes libres de faire ce que nous voulons, mais franchement, entre nous, on pourrait dire, mais bon, d'accord, oui, mais bon, ça sert à rien. Mais on va rester sur notre sujet, il rajoute tous mes permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Parce que à cause de notre liberté, nous pouvons faire certaines choses qui vont nous asservir. C'est vrai que tout nous est permis, mais notre liberté peut nous conduire à un asservissement. Et c'est là notre responsabilité, aux uns et aux autres. Il vaut mieux prévenir que guérir en la matière. Si on parle de délivrance, il vaut mieux, j'allais dire, anticiper les choses pour ne pas être esclaves de quoi que ce soit, pour ne pas nous laisser asservir par quoi que ce soit. C'est mieux ainsi, comme on dit, vaut mieux prévenir que guérir. Et à cause d'une certaine liberté et au nom d'une certaine liberté, certains se sont coincés eux-mêmes, se sont rendus esclaves eux-mêmes de bien des choses. Il y a quelques années en arrière, un bien-aimé frère en Christ a été délivré par le Seigneur de l'esclavage de l'alcool. Un esclavage terrible. À cause de cela, ça a duré des années, sa famille vivait un calvaire. Et ceux qui ont vécu ce genre de choses le savent, ce que l'alcool peut produire. Puis ce frère s'est converti au Seigneur, conversion remarquable, et il a été délivré de cet alcool qu'aucune cure de désintoxication n'avait pu faire, mais le Seigneur, par sa grandeur, sa puissance, a pu le délivrer. Nous l'avons baptisé, et puis je lui ai dit, parce que vous savez, les alcooliques, les anciens alcooliques ne boivent plus aucune goutte d'alcool de peur de retomber dans l'alcool. Ça peut leur redonner le goût. Et comme il avait été baptisé et que à la Sainte-Seine c'était du vin, je lui ai posé la question, mais est-ce que ça va pas être un piège pour toi? Parce qu'on peut te mettre du jus de raisin s'il faut. C'est un problème pour les anciens alcooliques, hein. ceux qui ont vécu cela ou qui connaissent ce milieu le savent très bien. Mais il m'a dit non, écoute, je suis vraiment délivré. Je peux boire un verre de vin à table sans pour autant retomber dans l'alcool. Et là, j'avais vraiment été délivré et le goût, l'odeur de l'alcool ne lui redonnait pas envie de retomber. Mais c'était son expérience à lui. Parfois, certains se sont donné la permission eux-mêmes de boire un peu, mais ça a été un piège pour eux. Aussi se sont-ils laissés réasservir tout à nouveau par ce poison qu'est l'alcool, parce que c'est un poison. Vous voyez, on peut se donner la liberté, et à cause de cette liberté que nous donnons, nous pouvons nous laisser asservir. Nous pouvons nous laisser asservir. Et d'où l'importance pour nous d'avoir du discernement sur ce qu'il convient de faire, sur la volonté de Dieu, d'avoir du discernement sur ce qui est bien, sur ce qui est bon pour chacun de nous. J'aimerais encore lire un autre passage avec vous dans le psaume 91, le psaume 91. Psaume 91, on va lire les trois premiers versets. Un psaume merveilleux. « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. » Il est écrit ici au verset 3, « C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. » Lorsque j'étais enfant, nous allions à la pêche, on prenait le bateau, on allait à la pêche et on jetait le filet. C'était en Charente-Maritime, plus exactement à l'île d'Oléron. Un grand filet, et après la pêche, il fallait nettoyer le filet. Donc on l'étendait sur des piquets, il faisait 25 mètres de long, et on enlevait les algues. Il fallait le faire. Et puis on le laissait comme ça, parfois quelques heures. Et il arrivait parfois que des oiseaux, ne voyant pas les fils, parce qu'ils étaient en nylon transparent, ne voyant pas les fils, s'élancer dans le filet et rester coincé dans le filet. Et plus ils se débattaient, plus ils étaient coincés. Il fallait que quelqu'un le démêle de tout cela pour le sortir. C'est une méthode de chasse pour non seulement les poissons, mais c'est une méthode de chasse pour les oiseaux, le filet de l'oiseleur. Et nous avons bien compris qui est cet oiseleur. Nous avons bien compris que c'est l'ennemi de nos âmes qui tend des filets pour nous piéger et il utilise pour cela la faiblesse de notre chair. Il utilise pour cela le manque de notre discernement, le manque, notre ignorance qui est en nous, notre aveuglement. Nous ne voyons pas, nous ne discernons pas ces mailles du filet et nous y allons, j'allais dire, franco, on se jette dans les filets de l'oiseleur et on est pris au piège. On est pris au piège à cause de notre ignorance, à cause de la faiblesse de notre chair. Et nous l'avons vu il n'y a pas si longtemps que cela, veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation, car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et l'apôtre Paul dira au sujet de la colère, juste après, il dira... et ne donnez pas accès au diable. Il est rare qu'un oiseau puisse se défaire tout seul du filet de l'oiseleur, car comme je le disais, plus il se débat, plus il s'en mêle dedans. Ça peut arriver une fois de temps en temps, comme cela, qu'un oiseau s'échappe tout seul du filet de l'oiseleur. Mais il faut une main extérieure pour le détacher, pour l'en délivrer. Il est dit, c'est lui, et il est question d'El Shaddai, du Tout-Puissant, de l'Éternel, qui est notre refuge, comme nous l'avons chanté, notre forteresse. C'est lui qui nous délivre du filet de cet oiseleur qu'il nous a tendu. Et pour certains, ce filet-là, eh bien, ça va être le filet de certaines passions, le filet de certaines dépressions, le filet de complexes. Mais le Seigneur est celui qui nous délivre de ce filet-là. On peut être pris, par exemple, au filet des complexes. Si nous nous comparons aux autres, nous allons être complexés. Par contre, ce qui nous libère, c'est de se comparer à Jésus. Parce que si on se compare à Jésus, cela ne produit pas un complexe, cela produit de l'humilité. Alléluia! Merci Seigneur! Et étant ainsi touché par la grâce du Seigneur, étant ainsi touché par la grandeur du Seigneur, notre âme est libérée. Si nous devions mesurer la grandeur de Dieu, par rapport à notre taille, si certains n'arrivent pas à se libérer de certaines choses, à se libérer du poids de la culpabilité, à se libérer des complexes, c'est qu'ils ne comprennent pas, ils ne saisissent pas, ils ne croient pas en l'amour de Dieu. Ils comparent cet amour à leur grandeur. Mais si on devait comparer la grandeur de l'amour de Dieu à notre petitesse, on va dire, mais bon, le Seigneur, il ne nous aime pas. Si c'est par rapport à notre grandeur que le Seigneur nous aime, on est si petit, si insignifiant dans l'univers. Si on devait se dire, mais plus j'ai des qualités, plus le Seigneur va m'aimer, alors j'aimerais vous dire que c'est peine perdue. Si vous voulez et si vous pensez que le Seigneur vous aime en raison de vos qualités, vous allez penser que le Seigneur ne vous aime pas. Si nous pensons que le Seigneur nous aime en raison de nos bonnes œuvres, là encore, nous allons penser, croire qu'il ne nous aime pas parce que, eh bien, les bonnes œuvres ne sont pas dans notre nature. Au contraire, le péché nous porte à des mauvaises œuvres. Mais malgré que nous soyons insignifiants, malgré que nous soyons si pauvres en qualité, malgré que nous soyons des pécheurs enclins au mal, ça nous dépasse, mais c'est une grande vérité de la parole de Dieu, il nous aime. D'un amour si grand qu'on est confondu. Alléluia. Et cela nous libère de l'apitoiement sur nous-mêmes, cela nous libère de cette culpabilité, cela nous libère des complexes de savoir et de croire en la grandeur de Dieu qui n'est en rien influencé par ce que nous sommes. Il nous aime, c'est lui qui nous a créés. La preuve, alors même que nous étions encore ennemis de Dieu, il est monté sur la croix. À peine on fait du bien à ceux qui nous aiment, mais lui, il a fait du bien, il a aimé même ses ennemis. Que son nom soit glorifié. Alléluia. Merci Seigneur. C'est lui donc qui nous libère du filet de l'oiseleur. Il est important que nous puissions sortir de l'ignorance qui est la nôtre. Dans Jean chapitre 8, on a déjà lu ce passage, mais j'aimerais avec vous le relire. Dans Jean chapitre 8, verset 32. Jean chapitre 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité. Oui, mais si on l'ignore. L'importance de la connaître. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Je dirais qu'ils ont quand même la mémoire courte. Hein. Parce que si on regarde, ne serait-ce que dans l'histoire d'Israël, à plusieurs reprises, ils ont été esclaves. Bon. Nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment, dis-tu, vous deviendrez libres ? Verset 34, en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le fils y demeure toujours. Si donc le fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes de la postérité d'Abraham, mais vous me cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. Ils lui répondirent, notre père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Après, il va leur dire quelque chose de terrible, qu'ils font les œuvres de leur père, et il leur dira, vous avez pour père le diable. Il y avait une ignorance terrible, terrible. Ils ne savaient pas qui était leur maître. Ils étaient dans cette ignorance-là. Et quand on ne sait pas qui est notre maître, cette ignorance-là nous conduit à un asservissement terrible parce qu'on ne sait pas qu'on est esclave alors qu'on pense être libre, mais qu'on a besoin d'être libéré. Eux pensaient être libres alors qu'ils avaient été esclaves physiquement à plusieurs reprises dans leur histoire, et que là même, ils étaient sous domination romaine. Bon, bref, passons. Mais il y avait un esclavage plus terrible encore, c'est l'esclavage du péché. Et Jésus va leur dire, quiconque se livre au péché est esclave du péché, et ça, ils n'en avaient pas conscience. Cette ignorance-là faisait en sorte qu'ils restaient dans la condition qu'ils étaient. Si on n'est pas conscient de notre condition, si on n'est pas conscient de notre esclavage, de notre asservissement, jamais, jamais, on ne sortira de cet esclavage. Comme dit l'apôtre Pierre dans sa deuxième épître au chapitre 2, verset 19, ils leur promettent la liberté alors qu'eux-mêmes sont esclaves de la corruption. Il y a des gens qui promettent la liberté aux autres, mais qui eux-mêmes sont esclaves de beaucoup de choses. L'apôtre Paul l'évoque bien dans certains passages de l'épître aux Romains. Dans Romains chapitre 6, par exemple, à partir du verset 13, Romains chapitre 6, à partir du verset 13, il y a tellement de passages à lire que nous sommes obligés de faire le tri. Ne livrez pas vos membres au péché. Donc ça nous est adressé et on voit notre responsabilité. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc, pécherions-nous, parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce, loin de là? Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez? Soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce qu'après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Ayant été affranchi du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair, de même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves de la justice pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, ayant été affranchi du péché, devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Passage extraordinaire. J'aimerais juste relire le verset 20, car lorsque vous étiez esclave du péché, vous étiez libre à l'égard de la justice. Faisiez ce qu'on voulait. C'est-à-dire, tant que je ne connaissais pas la parole de Dieu. Je ne me souciais pas du tout de la volonté de Dieu. Je ne m'en souciais pas du tout. Je menais ma vie comme je voulais. Mais maintenant que cette parole est dans nos cœurs, maintenant, nous obéissons à cette parole. Comprenez ? Nous sommes libres à l'égard du péché. Maintenant, le Seigneur nous a affranchis de cela. On est débarrassé. Et l'apôtre Paul dira dans Romains chapitre 8, verset 12, je cite, « Nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. » On n'est plus redevable. Quand on est redevable envers quelqu'un, cette personne a un certain pouvoir sur nous. Si j'ai des dettes envers quelqu'un, et voilà, je lui suis redevable. Il a un certain pouvoir, mais là, nous ne sommes plus redevables. Merci Seigneur, il nous a affranchis, il a payé la dette sur la croix. Que son nom soit glorifié. Dans Romains chapitre 7, verset 15, l'apôtre Paul dit quelque chose de fort intéressant. Il dira, « Je ne sais point ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. » Il y a là trois choses importantes. « Je ne sais point ce que je fais. » C'est l'ignorance dont je parlais. Ne pas savoir ce que l'on fait. Ne pas savoir ce que l'on fait et les conséquences de cela. Ne pas savoir ce que l'on fait est mal. Ne pas savoir que ce que l'on fait nous tient en esclavage. Deuxième point, je ne fais point ce que je veux. On voit là quelqu'un qui n'est pas libre. Si on ne fait pas ce que l'on veut, c'est qu'on n'est pas libre. Troisième point, et c'est là terrible, je fais ce que je hais. C'est là quelqu'un qui n'est plus dans l'ignorance parce qu'il sait que ce qu'il fait est mal et en plus, il a horreur de ça. Il a horreur de faire ce qu'il fait. Mais il ne peut pas s'en empêcher, malgré qu'il essaye de combattre dans ses pensées, malgré qu'il sache que ce qu'il fait est mauvais, qu'il en est dégoûté, il continue à le faire. Et c'est le triste sort, malheureusement, de tous ceux qui sont tenus par la puissance d'un lien, qu'il soit alcool, drogue, pornographie ou autre, ils savent que ce qu'ils font est mal, ils ont en horreur, mais c'est plus fort qu'eux, ils le font. Aussi, l'apôtre Paul dira au verset 24, et je l'avais déjà cité, « Misérable que je suis ». En effet, quand on est dans cette condition-là, on est misérable. Mais ça n'empêche pas que Dieu nous aime. Alléluia. Ah, ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Nous sommes misérables, mais Dieu nous aime. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ? Et il s'écrit au verset 25, « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. » Car le seul qui peut nous dégager du filet de l'oiseleur, le seul qui a la puissance de nous délivrer, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Aussi, nous voulons lever les yeux vers lui et dire, Seigneur, secours-nous. Si le Fils, si Jésus, le Fils de Dieu, nous affranchit, nous serons alors réellement libres. À lui seul soit toute la gloire. Amen. Merci, Seigneur. Le Seigneur nous adresse une parole qui va nous libérer. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dans le processus, j'allais dire, de libération, le Seigneur, comme je l'ai déjà dit, enlève notre ignorance. Il nous éclaire, il nous apporte sa lumière. Nous avons aussi parlé de la croix et j'aimerais parler de l'importance de la parole de Dieu. Le Seigneur envoie sa parole, cette parole qui va nous libérer, cette parole pleine d'autorité et de vérité. Le Seigneur dit une chose et elle arrive. Il a dit aux éléments déchaînés, la tempête qui était là, « Silence, tais-toi !» et la tempête s'est calmée. Amen. Et nous avons besoin, dans certaines situations, de recevoir dans nos cœurs, et le Seigneur le sait très bien, une parole d'autorité, une parole de vérité qui va se sortir de la bouche de Dieu, qui va atteindre notre cœur et qui va nous libérer. Que son nom soit béni. Alléluia. Merci Seigneur parce que c'est cette parole-là qui, lorsqu'elle est reçue et crue dans notre cœur et mise en pratique, va nous sortir de cet esclavage. Excusez-moi. Encore faut-il pour nous, le jour où nous recevons cette parole, de saisir le temps de Dieu. Car, comme il est écrit, voici maintenant le jour du salut. Voici maintenant le moment favorable. Le Seigneur a tendu la main à bien des personnes, leur adressant sa parole. Ils n'ont pas saisi le temps de Dieu. Ils n'ont pas saisi. C'est aujourd'hui le jour du salut. Il y a toujours un moment où Dieu vient nous visiter. Il y a toujours un moment où Dieu nous tend la main. Et c'est ce moment-là qu'il faut saisir. Et ne pas dire, oh bien, je verrai demain. Je vais réfléchir à la chose. C'est maintenant le jour du salut. Et nous voulons saisir la grâce que Dieu nous adresse. Béni soit le Seigneur pour ces personnes qui sont sorties, qui ont été délivrées de la dépression parce qu'ils ont reçu une parole du Seigneur. Une parole pleine de réconfort. Une parole qui les a révélé combien Dieu les aimait et qu'il en... Cela les a sortis de la dépression. Que Dieu soit béni. Amen. Il est écrit dans Matthieu, au chapitre 8, verset 16, que Jésus chassait les mauvais esprits par sa parole. Par sa parole. Oui, Jésus chasse les mauvais esprits par sa parole. Il a autorité sur les mauvais esprits. Que son nom soit glorifié. Nous l'avons vu plusieurs fois. Nous, parfois, il est vrai que nous prions pour des personnes qui sont possédées et ces bien-aimés sont délivrés. Mais parfois, ça s'est passé tout autrement. On a dit une parole et le possédé a été délivré. Que son nom soit glorifié. C'est le Seigneur qui libère. Comprenons bien, ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme, mais c'est le Seigneur Jésus qui peut et qui lui seul a autorité sur ces esprits mauvais, sur ces esprits impurs, sur ces esprits méchants et qui va libérer ses bien-aimés, que son nom soit glorifié. Cela, bien sûr, peut se faire par la prière. Le Seigneur nous invite, bien sûr, à prier pour ces personnes-là. Mais il peut aussi se servir de nous pour adresser une parole à certaines personnes afin qu'elles soient délivrées à lui seul, soit toute la gloire. Alléluia. Je me rappellerai un jour, dans une église où j'étais pasteur, une bien-aimée vient nous voir. Il y avait là avec moi un pasteur stagiaire qui était avec moi dans cette église. Cette femme était chargée de péchés abominables, dont il est presque difficile de dire, tellement qu'ils sont abominables. Et elle commence à nous raconter ce qu'elle faisait. Elle était dans la situation de ce que Paul disait tout à l'heure, « Je fais ce que je hais ». Elle était dégoûtée par ce qu'elle faisait, il y avait de quoi. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la zoophilie. Elle était dégoûtée par ça. Mais elle en était esclave. Elle était esclave de son péché, mais il y avait aussi un autre esclavage intimement lié. Elle était liée aussi par un esprit impur. Et les esprits impurs génère de l'impureté dans tous les domaines. Et au moment de la discussion avec elle, cette dame, nous étions dans le bureau, a commencé à se rouler par terre, il y avait une flaque de glaire énorme. Jamais je ne pensais pas que quelqu'un pouvait avoir autant de glaire en lui. C'était énorme et elle se roulait comme un serpent par terre, c'était assez affreux à voir, mais il a suffi d'une parole pour que cette bien-aimée soit libérée de son lien. Ça, c'est la puissance du Saint-Esprit. C'est la parole qui libère, qui peut faire ça. Aucun homme ne peut le faire. Aucun homme. Mais c'est l'autorité de la parole de Dieu qui fait ces choses-là. Aussi, nous faut-il prier pour tous ceux qui sont esclaves de telles choses, afin que Dieu leur adresse une parole et qu'ils soient délivrés. Il n'y a pas que seulement ceux qui sont possédés qui ont besoin de recevoir une parole, mais nous le remarquons aussi dans bien des situations, comment la parole de Dieu fait son œuvre, et lorsque nous la saisissons, elle nous libère de certains liens, elle nous libère de certaines mauvaises pensées, elle nous libère de certaines passions, que son nom soit glorifié. Amen. J'en reparlerai un peu plus loin. L'apôtre Jean dira dans sa première épître au chapitre 5, verset 4, que ce qui triomphe du monde, c'est quoi? C'est notre foi. La foi qui triomphe du monde. Et cette foi, elle vient dans notre cœur par la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, elle vient de la parole de Dieu. Et cette foi-là, que le Seigneur fait grandir dans notre cœur, qu'il la développe dans notre cœur, c'est cette foi-là qui nous fait triompher du monde. Ce monde qui est anti-Dieu, ce monde qui ne croit pas en Jésus, ce monde qui renie Jésus, nous croyons en Jésus, qui nous fait triompher. L'amour nous amène, la foi, excusez-moi, nous amène à aimer les autres. Et cet amour-là va nous libérer. L'amour nous libère de la rancune, que Dieu soit béni. L'amour nous libère de toute amertume envers quelqu'un, que son nom soit glorifié. Vous savez, parler de la délivrance, c'est parler de quelque chose qui nous touche les uns et les autres. Il y a des délivrances qui sont instantanées, et puis d'autres qui sont un véritable combat. Ne pensons pas un instant que ça va se passer toujours d'une manière instantanée. Non. Ça peut demander de la lutte, ça peut demander des combats, ça peut demander du temps. Et je dirais même que la situation peut s'empirer avant la délivrance. Je prendrai un exemple que nous connaissons bien. J'ai noté tous les passages, mais je vais juste rappeler l'histoire parce que vous la connaissez bien. C'est la délivrance du peuple d'Israël d'Égypte. La délivrance du peuple d'Israël d'Égypte. On voit que le diable ne s'est pas laissé faire. On voit même, au début, la situation des enfants d'Israël s'empirer. Pharaon n'est pas content et il va imposer des travaux supplémentaires aux enfants d'Israël. À tel point que les enfants d'Israël vont se plaindre auprès de Moïse. Notre condition est pire. Voilà que Moïse est venu pour délivrer et au début, la situation s'empire. C'est ce qui arrive parfois lorsque on commence à prier pour certaines personnes qui veulent être délivrées. C'est ce qui arrive parfois lorsqu'on essaie d'être délivré de quelque chose. Notre situation peut s'empirer. C'est ce qui s'est passé pour les enfants d'Israël. On voit aussi qu'ils n'ont pas, qu'il y a eu un bras de fer, hein. Et l'entêtement de Pharaon qui ne voulait pas laisser aller le peuple de Dieu. Ça s'est pas passé comme ça. Mais il y a eu un combat. Il a fallu du temps. Et même, une fois sorti d'Égypte, qu'est-ce qui s'est passé? Pharaon s'est dit, qu'est-ce que nous avons fait en laissant partir les enfants d'Israël? On n'aura plus leur service. Hein. Alors, Pharaon a pris son armée et leur a couru après. Eux, ils pensaient être délivrés de Pharaon, et voilà que Pharaon leur court après. Et parfois, on a été délivré de certaines choses, mais on voit poindre le retour de ces choses-là, qui veulent à nouveau nous accaparer. Oui, c'est pour dire que, en fin de compte, c'est un combat. Mais la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur a toujours le dernier mot. Amen. En disant cela, ça me fait penser à lorsque nous avons été en Algérie, un frère en Christ en Algérie nous disait Nous sommes sortis de l'islam, mais l'islam nous court après. Ils avaient l'impression d'être comme les enfants d'Israël, Pharaon leur courait après. Parce qu'ils étaient obligés de mettre leurs enfants dans des écoles, et dans les écoles, l'islam est enseigné, le Coran est enseigné. Vous voyez, et parfois ils perdaient leur travail parce que leur patron apprenait qu'ils étaient chrétiens. Et c'est pas évident. C'est vrai que la délivrance demande un combat. La délivrance demande un combat. Et pour les choses intérieures à nous-mêmes, il en est de même. Dans Marc, il est parlé de la délivrance du possédé de Gadara. Juste avant cela, Jésus a fait traverser le lac avec ses disciples. Il va traverser le lac, il va arriver dans ce lieu où il y a le possédé de Gadara, qui est là, il va le délivrer, et Jésus va repartir. Pourquoi il repart? Parce que les gens sont choqués de la délivrance de ce malheureux qui était possédé. Juste avant la délivrance, donc Jésus n'est allé dans ce territoire-là que pour délivrer cet homme. Il restait que très peu de temps. Mais qu'est-ce qui va se passer juste avant la délivrance? Quand Jésus va aller sur ce lieu pour délivrer cet homme, c'est là qu'il y a la tempête. C'est là qu'il y a la tempête que Jésus va calmer. Le diable se déchaîne, comprenez? Il ne veut pas que ce possédé soit délivré. Et il y a la tempête, il y a là une tentative du diable de faire échouer cette mission de Jésus. Et de la même manière, encore aujourd'hui, il y a des situations où le diable nous empêche par différents moyens d'apporter une délivrance à quelqu'un. C'est un vrai combat qu'il nous faut tenir dans la prière, dans la prière. Mais le Seigneur est celui qui nous accompagne. Alléluia, que son nom soit béni. J'ai connu ce jeune homme et peut-être c'est la situation dans laquelle se trouvent certaines personnes étaient tenues par le lien de la cigarette. Ça paraît anodin comme ça, une simple cigarette. Mais on sait les ravages que fait le tabac et la nicotine. Et ce jeune homme s'est converti à Jésus et il voyait bien que la cigarette, bon, ça nuisait à sa vie. Et il voulait s'en débarrasser. Il voulait s'en débarrasser. Mais c'est pas si évident que cela, hein. Après des années de tabac, c'est pas si évident que cela. Pour ceux qui ont fumé, ils le savent bien. Et ça a été un combat qui a duré des mois et des mois. Il n'y arrivait pas. Des fois, il arrêtait 2 jours, il reprenait. Il arrêtait 3 jours, il reprenait. Bon, il y avait des hauts, il y avait des bas. Mais lorsque il a été rempli du Saint-Esprit, c'est là que, à partir de ce moment-là et dans la suite, il n'a plus jamais touché à une seule cigarette. Et par ses efforts, il n'y arrivait pas. Mais lorsque le Saint-Esprit est venu puissamment en lui, il l'a rempli, alors il a eu la force. D'ailleurs, il n'y pensait même plus à fumer. Le Seigneur peut nous enlever toutes ces envies, il peut nous enlever toutes ces pensées, il peut nous enlever tout cela qui nous tient et qui nous lie, afin que nous soyons réellement libres, que son nom soit glorifié. Amen. J'aimerais lire encore avec vous dans Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, verset 29. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Amen. Vous vous rappelez peut-être, dimanche dernier, je prenais l'image d'une pelote de laine qui est emmêlée et qu'il nous faut démêler. Dénoue les liens de la méchanceté. Et nous sommes appelés à nous démêler de certaines situations aussi. Mais parfois, c'est tellement serré, et le fil est tellement serré, qu'on ne peut pas, ça a fait des nœuds dans tous les sens. La solution pour se détacher, à ce moment-là, c'est de couper. Hein. Prenez un ciseau, puis c'est plus rapide, hein. C'est plus radical. Ici, il est dit, si ta main droite est pour toi une occasion de chute, tu la coupes, hein, et tu la jettes. Pareil pour l'œil. Dans certaines situations, il faut trancher, si nous voulons vraiment être libres. Et nous avons une arme tranchante à notre disposition, c'est la parole de Dieu. Dont il est dit dans l'Épître aux Hébreux que cette parole est comme une épée plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Elle tranche et elle coupe très bien. Non seulement elle tranche, mais il nous est dit qu'elle pénètre jusqu'à partager jointure et moelle, âme et esprit. Et la parole de Dieu sait très bien aller là où il faut dans nos vies. Elle pénètre jusqu'au plus profond de notre être pour révéler ce qu'il y a et pour extirper ce qu'il doit être extirpé. Béni soit le Seigneur pour cette parole. Si nous savons pertinemment qu'une chose est dangereuse pour nous, si cette chose-là est une occasion de chute qui va nous lier, il faut trancher. Et la parole de Dieu nous appelle à trancher. Et c'est à nous que revient cette responsabilité. Ce n'est pas le Seigneur, ce n'est pas lui qui coupera notre main, ce n'est pas lui qui va arracher notre œil, ce n'est pas lui qui fera cela. La responsabilité, elle nous revient. Bien sûr, on a bien compris que c'est au sens figuré. Hein. N'allez pas, en sortant du culte, vous couper la main. Hein. J'aurais des problèmes, vous vous arrachez un œil. Vous avez bien compris hein, que c'est au sens figuré. Mais Jésus emploie ici, volontairement, un terme fort pour qu'on puisse comprendre l'importance de l'enjeu. Il y a certaines choses dont il faut vraiment s'écarter. Et là, pour cela, il faut nous en débarrasser. Et nous sommes appelés à prendre position. Et ça demande un certain courage. Imaginez le courage qu'il faudrait pour prendre une hache et se couper la main, soi-même. Imaginez le courage qu'il faudrait pour prendre un œil et se l'arracher. Je ne sais pas si vous ferez ça, mais moi je ne le ferai pas. Hein. Comprenez bien. Soi-même. Ce n'est pas un chirurgien qui va vous mettre de l'anesthésie. Imaginez que vous avez une gangrène dans la main ou je ne sais pas où. Bon, on va vous amener à l'hôpital, on va vous mettre une anesthésie et c'est en dernier recours le chirurgien qui va faire une amputation. Mais là, c'est soi-même, hein, sans anesthésie en plus. Oui, il y a des décisions qui sont difficiles à prendre. Il y a des décisions qui demandent du courage. Mais si nous voulons vraiment être libres, il faut prendre cette décision. Sans remettre à demain, comme je disais tout à l'heure. Il nous faut prendre ces décisions. Et qu'est-ce qui va nous donner le courage? C'est notre foi en notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui va nous donner ce courage de faire ce qu'il y a à faire. Sans ça, il n'y a pas de délivrance. Quand bien même on pourrait multiplier les prières, les jeûnes et prières, si on a quelque chose à faire pour être vraiment libre, ça ne peut sortir que si on fait ce qu'il y a à faire. Sinon, on peut multiplier les prières, tout ça ne fera rien. C'est pour cela que des fois on a un blocage. C'est pour ça qu'il y a parfois certaines délivrances qui n'ont pas lieu, c'est parce que la personne ne fait pas ce qu'elle a à faire. Elle ne fait pas ce qu'elle a à faire. Aussi, nous faut-il, eh bien, prendre certaines décisions. La parole de Dieu nous dit, par exemple, de fuir les idoles. Fuyez les idoles. Il est évident que si on était un ancien idolâtre et que, après notre conversion, on garde chez soi ces idoles, comprenez que ça peut être un piège. De la même manière que si on pratiquait l'occultisme, on voit dans Acte 19 que ceux qui avaient exercé la magie se débarrassaient de leurs livres magiques. On doit se débarrasser de certaines choses. Ça passe par ces objets-là, comme je disais, les idoles, les fétiches, et tout ce que vous voulez, hein, les pendules et autres. Objets. Il faut se débarrasser de tout ça. Bon, ça, c'est peut-être plus facile. Mais parfois, il y a certaines choses qui sont sentimentales. Ça touche notre être. Je parlais, il me semble que c'était la semaine dernière, de cette femme surprise en flagrant un délit d'adultère. Jésus la renvoie libre, va et ne pêche plus. Donc on voit que c'est à elle de ne plus pêcher. C'est pas à Jésus qui le fera à sa place. Il lui dit, ne pêche plus. Or, elle est dans une relation avec un homme qui est illicite, il y a des sentiments. C'est pas si facile que ça. Mais si elle veut vraiment être libre, il faut qu'elle arrête cette situation-là. Que le Seigneur nous aide à voir le mal en horreur et à nous attacher fortement au bien. Que son nom soit glorifié. Que le Seigneur nous adresse une parole qui nous éclaire sur ce que nous avons à faire. Dans la prière du Notre Père, il y a cette partie de la prière qui dit « Délivre-nous du mal. » Que le Seigneur nous délivre du mal, parce que lui a paru afin de détruire les œuvres du diable. Le monde entier est sous la puissance du malin. Il veut tenir le monde. Il veut asservir le monde. Nous sommes sortis de ce monde. Nous sommes sortis de l'empire du diable pour passer à un autre empire, pour passer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Et il nous a libérés de toutes ces choses. Que son nom soit glorifié. Merci Seigneur de continuer à faire ton œuvre dans nos cœurs. Amen. À toi soit toute la gloire, Seigneur Jésus. Merci Seigneur de nous donner le courage de prendre les bonnes décisions, de nous détourner de certaines choses, de nous en éloigner, Seigneur. Ô béni sois-tu, Seigneur, pour ton œuvre dans nos cœurs. Béni sois-tu pour ta parole qui a atteint nos cœurs, Seigneur, et qui nous libère. Béni sois-tu parce que tu t'es révélé à nous. Seigneur, merci parce que c'est toi encore aujourd'hui qui libère les captifs, qui libère tous ceux qui sont possédés, Seigneur, de mauvais esprits, qui s'approchent de toi, Seigneur. Te prions vraiment de faire ton œuvre dans leur cœur. Te prions aussi pour ceux qui ont des liens, des mauvaises pensées dont ils n'arrivent pas à se débarrasser, pour tous ceux qui sont tenus par la dépression, par la rancune, par la haine. Seigneur, je te prie vraiment de les délivrer en ton nom. Seigneur, c'est toi qui délivres toute personne qui ont des pensées suicidaires. C'est toi qui délivres, Seigneur, vraiment, qui nous délivre de cette puissance du péché sous toutes ses formes. À toi soit toute la gloire, Seigneur Jésus. Amen. 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 Que Jésus vous bénisse et passez un bon dimanche.